L'immigration des étrangers, devenus aujourd'hui ressortissants des pays de l'Europe communautaire, semble, aux yeux de certains, avoir été moins compliquée et douloureuse que celle qui a touché et qui touche encore les étrangers issus des pays coloniaux et post-coloniaux. Cette vision simpliste et dangereuse renvoie chaque groupe migratoire à sa spécificité, au risque d'ethniciser et d'exacerber à mauvais escient le différentialisme culturel. Avoir une vision aussi fragmentée, c'est faire fi des changements qui s'opèrent dans le temps au sein de la société d'accueil. La communauté italienne a-t-elle eu donc plus de facilité à s'intégrer à la société française que d'autres ? C'est la première question posée à l'hôtelière.
C'est une question à laquelle il faut répondre avec beaucoup de prudence. Et disant ça, j'essaye pas de me défausser et de pas répondre. Mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il existe effectivement pour les Italiens maintenant des propos qu'on entend souvent, qui se sont intégrés très facilement, sans aucun problème, etc. Il y a presque même le mythe d'une intégration parfaite et harmonieuse, miraculeuse presque. Bon, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait fi de l'histoire, en ce sens que ça aplatit complètement la durée historique. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il en est aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, la communauté italienne, on peut d'ailleurs pas parler d'une communauté à proprement parler. C'est fondu, cette population, dans la population française. Et les gens passent inaperçus, ont fait leur chemin dans la société, etc., etc. Même s'il y a quand même un certain retour de mémoire, finalement, autour de l'identité, etc., on pourra en reparler, si tu veux, qui se manifeste aujourd'hui. Mais en même temps, si on reprend le cheminement, cette longue histoire qui a plus d'un siècle, puisque les Italiens en France, ça remonte à très loin, et en tout cas l'immigration de masse remonte à la fin du 19e siècle. Là, les choses sont très différentes. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des à-coups, il y a eu des moments avec beaucoup plus de tension. À l'échelle de la France, des moments forts de tension, ça a été à la fin du 19e siècle. On connaît l'histoire du massacre d'Aiguemortes, dans les Salines du Midi. Et puis aussi, la Seconde Guerre mondiale, et ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans cet entretien, a été un moment extrêmement dur pour la communauté italienne en France. Donc, on ne peut pas dire, en fait, qu'il y aurait eu comme ça une histoire sans heurts, etc. Et après, la deuxième remarque, alors là encore beaucoup plus générale, c'est sur cette notion même d'intégration rapportée à chaque communauté particulière. Sur ça aussi, il faut être très prudent parce qu'en fait, on renvoie facilement à tel ou tel type de population, tel ou tel type d'étranger, une sorte de capacité intrinsèque à s'intégrer ou pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la société elle-même, la société française, la société d'accueil, quelle qu'elle soit, elle change continuellement dans le temps. C'est-à-dire, on ne s'intègre pas qui que l'on soit, quelque sorte d'étranger que l'on soit, à la même société, à la fin du 19e siècle, à la Belle Époque, dans les années 20, dans les 30 glorieuses de l'après-guerre, ou aujourd'hui, ou dans les années 80, etc. Les modèles sociaux ont complètement changé, le contexte économique change complètement, les valeurs même, les représentations qui animent les gens sont complètement transformées. Donc, la manière dont se passent les intégrations successives, il y a des phases, c'est sûr, dans l'intégration des communautés étrangères dans un pays, ne renvoie pas simplement à eux, mais renvoie beaucoup plus largement à la société, à son rapport à l'autre à un moment donné. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut jamais faire de comparaison de terme à terme entre aujourd'hui et hier. Tout ça est très fin et demande à être regardé avec beaucoup de nuances.
On y reviendra sur la fin. Donc, tu as choisi une période, 1920-1940. En 1920, il y a une situation en France, et plus particulièrement dans le sud-ouest, juste après la Première Guerre mondiale, une situation démographique assez préoccupante. Est-ce que cette situation-là joue un rôle essentiel dans l'immigration de masse des Italiens ?
Oui, sur la question des Italiens dans le sud-ouest de la France, qui est une vague migratoire très particulière et à laquelle se consacre donc mon bouquin, c'est sûr que ça a été un facteur décisif. C'est-à-dire qu'au sortir de la Grande Guerre, au début des années 20, le sud-ouest de la France se trouve vraiment dans un état de dépopulation, en fait, puisque dans la plupart des départements du bassin de la Garonne, le maximum démographique a été atteint au milieu du 19e siècle. C'est les recensements de 1846 ou 1848. 1951, et ensuite il y a un déclin démographique progressif en fait. Donc c'est pas simplement, comme on le croit souvent, la saignée de la Grande Guerre qui est réelle, mais qui ne fera qu'amplifier ici un phénomène bien plus ancien en fait, et un phénomène qui tient à la restriction volontaire des naissances. Et ça, c'est un phénomène massif mais assez mystérieux sur lequel les historiens se penchent encore et l'analysent encore. Pourquoi les gens sont venus véritablement volontairement ici à limiter le nombre de leurs héritiers, hein, puisqu'on a au début des années 20 en général un taux de fécondité de l'ordre de 1,7 enfants par femme. Donc le taux de renouvellement des générations n'est même plus assuré.
Et une des explications... ce qui pose un problème politique d'ailleurs, idéologique à certains.
Exactement, puisque à cette époque-là, dans la société de l'époque, l'idéal nataliste est très fort, hein. D'ailleurs ça, c'est une constante de la société française, je dirais, mais on se trouve face à un monde social extrêmement inquiet de ce déclin démographique. Il y a des propos catastrophistes sur la décadence de la France, notamment par rapport à l'Allemagne, l'ennemi héréditaire qui, elle, est en pleine croissance démographique. Et on accuse le malthusianisme, un terme très en usage à ce moment-là, pour se plaindre du fait que les gens et les Français ne font plus assez d'enfants dans la région.
Quando nasceste voi, nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentiva di lontano, e specialmente quel del gelsomino. L'amore come il rado si attacca amore, così così mio cuore mi si è attaccato a te. Bien, 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 ricciolino d'amor, vada ben che la mamma non veda, vada ben che la mamma non senta. Bien, 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 ricciolino d'amor, vada ben che la mamma non veda, o bell'angelo del mio cuore.
C'est une vague migratoire qui a été souhaitée, fortement souhaitée ici par, disons, le secteur économique et puis les décideurs politiques, les collectivités territoriales de la région et notamment le secteur agricole en fait. C'est les grands syndicats d'agrariens, de propriétaires terriens qui ont voulu trouver une solution au problème des campagnes. Parce qu'en fait, cette dépopulation, il faut bien voir qu'elle touchait avant tout les campagnes. C'est-à-dire les villes continuaient à voir leur population s'accroître, hein, les grandes villes. Mais dans les cantons ruraux, vraiment de l'arrière-pays, là, il y avait beaucoup d'exploitations agricoles carrément à l'abandon. On parle au début des années 20, par exemple, pour le département du Gers, de 2500 fermes abandonnées qui n'avaient plus d'exploitants. Donc effectivement, ce sont toutes ces institutions, en fait une myriade d'institutions comme ça, de comités locaux, de comices agricoles, de syndicats agricoles, de conseils généraux, etc., qui ont voulu amorcer en quelque sorte la pompe migratoire, hein, c'est-à-dire trouver des étrangers qui désireraient s'installer à la terre ici et y rester. Et c'est ça qui est assez original, c'est que c'était une immigration, on souhaitait une immigration d'exploitants agricoles, beaucoup plus que d'ouvriers agricoles, que de salariés agricoles, même s'il y en a eu aussi, et des gens qui, dès l'origine, seraient prêts à s'installer à demeure. Ce qu'on voulait, c'était des gens qui viennent s'enraciner. Vraiment une immigration de peuplement, en fait.
Avec des dispositifs mis en place, notamment sur le foncier, favorables à cette installation.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu des systèmes d'aide. Alors, il y avait des primes, par exemple, pour les propriétaires qui mettaient à bail leurs terres pour qu'elles soient prises par des étrangers. Il y a eu des systèmes d'aide pour payer les billets de train des étrangers qui venaient visiter les exploitations avant qu'ils se décident à les prendre, etc. Donc il y a eu des formes de subventions comme ça pour amorcer ce phénomène. Puis une fois que le truc a été lancé, ça s'est poursuivi un peu tout seul. C'est-à-dire il n'y a pas eu besoin d'organiser des cars ou des trains qui allaient chercher les Italiens. Mais en Italie même, où la situation était inverse, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie, il y avait vraiment surpopulation relative des terres. Les terres étaient très chères et dans certains endroits, les familles étaient vraiment trop, trop nombreuses sur des petits lopins. Eh bien, là, quand on a su, au milieu des années 20, que le sud-ouest était une terre d'émigration rurale potentielle, il y a eu une sorte d'effet de rush, comme on a dit à l'époque, de boom, et beaucoup de candidats ont voulu immigrer vers notre région.
Maremma, e a me mi pare una maremma amara. ho perduto una persona cara. Sia maledetta Maremma, Maremma, sia maledetta Maremma e chi l'ama. Sempre mi trema il cor quando ci va.
Justement, comment réagit à ce moment-là la population? Est-ce qu'on a des traces de, dans l'imaginaire collectif, comment était vu l'italien?
Ben en fait, il y a deux niveaux de lecture. C'est sûr que par rapport à une immigration de cette ampleur, hein, qui a donc été massive, puisque entre 1923 et 1926, là, il y a 40 000 Italiens qui viennent s'installer dans le sud-ouest, c'est-à-dire Aquitaine, Midi-Pyrénées. D'abord, il y a les discours, c'est-à-dire ce qui se répand auprès des faiseurs d'opinion, la presse, les discours officiels, politiques, etc. Et là, c'est très positif, c'est-à-dire qu'on accueille ces Italiens d'une manière ouverte parce qu'on les voit comme un facteur de renouveau, des bras pour ces terres qui meurent, comme on le dit à l'époque. Donc, les discours sont extrêmement positifs. Après, c'est plus compliqué à observer du point de vue de l'historien si on essaye vraiment de voir les rapport de proximité, c'est-à-dire dans les villages, dans les hameaux, comment se fait le contact entre ces premiers migrants et puis les voisins, les paysans du sud-ouest qui étaient là. C'est sûr que là, ça a été plus mitigé certainement. Il y a eu des phénomènes d'incompréhension, des phénomènes de solidarité, un certain accueil, un côtoiement, et puis peu à peu, les choses se sont installées. C'est sûr que le fait que ça se passe dans l'agriculture et que ce soit des paysans, déjà paysans chez eux, qui viennent s'installer pour continuer à être paysans, a certainement favorisé les choses. C'est-à-dire que tout de suite, il y avait une certaine proximité dans les savoir-faire, les pratiques agricoles, même s'il y avait aussi des décalages, mais en tout cas une possibilité de partager un certain apprentissage. L'occitan aussi a certainement servi de sas linguistique, parce qu'à l'époque, dans les campagnes, ici, on parlait l'occitan et c'était plus proche de l'italien que le français.
Dans le piémontais, on parle aussi.
Et il y avait des vallées aussi piémontaises où on parle occitan, donc ça a joué aussi dans un sens favorable. Et puis le fait aussi, par exemple, que l'été, souvent encore, il était de tradition de se donner la main entre voisins pour les gros travaux agricoles, les moissons, le dépiquage, etc. Et donc ça aussi, ça favorisait un contact précoce entre les uns et les autres.
Dime un po' bel galan, bel giù, d'où assevin camina, camina, sun ver la Francia, d'où vaie la mia speranza. Tu vai e mesolica, tu vai e mesolica, bel gallanta le stai tan franza, na vampiasa spasige, a si scontra na franceisa, ca parlava la piemonteisa, o monsieur base moi bien, o monsieur base moi bien. Alla piala per sue man bianche an gruppeta la tire, all'amna la slecculine, due ie l'erbotte fine, due tre volte sa la base, due tre volte sa la base, e adesche la vei basame, bel galan mi sposerai. Sale long che mi pensava, sale long desiderava, dispuse mesolica, dispuse mesolica.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un discours de la part, je crois, de la droite en particulier, ou en tout cas des milieux catholiques, d'un risque d'abattardissement de la race, comme ça pouvait déjà pointer
Alors, c'est sûr que si on lit la presse de l'entre-deux-guerres, on est frappé aujourd'hui par les discours racistes, clairement racistes, qui s'affirmaient à l'époque. C'est des propos, d'un vocabulaire qui nous choque vraiment directement aujourd'hui, y compris en particulier dans la presse catholique, justement. La Croix du Midi, à cette époque-là, est un journal véritablement profondément raciste. Et ça a existé durant tout l'entre-deux-guerres, vis-à-vis des étrangers en général, Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, par rapport aux Italiens, ça a plutôt été mis en bémol. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas ça qui a surgi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a plutôt perçus d'une manière favorable du fait de l'urgence de la situation démographique et économique ici dans le sud-ouest, avec une région qui avait besoin de bras. Et donc on a plutôt souligné la proximité culturelle avec ces Italiens. Mais là aussi, on pourrait dire, ah ben oui, c'est normal, c'est des Latins, c'est des méridionaux, ça va tout seul. Mais en tant qu'historienne, vraiment, j'insiste sur le fait que tout ça, c'est changeant, c'est fluctuant au cours du temps. C'est-à-dire que, en fait, 20 ans auparavant, à la fin du 19e siècle, on soulignait l'extrême différence entre ces Italiens et les Français. C'était plutôt ça qui était mis en avant dans des discours clairement racistes qui dominaient au moment, justement, de l'affaire d'Aigues-Mortes, etc. Donc c'est vraiment circonstanciel qu'à ce moment-là, eh bien, on est ressorti le cousinage latin, c'est les propos de l'époque, des nations sœurs, des civilisations sœurs, etc. Et ce qui avait joué, en fait, ce retournement s'explique aussi en partie par la Grande Guerre où Français et Italiens s'étaient retrouvés du même côté des tranchées, unis par des liens de sang indéfectibles. Et là encore, je reprends une expression de l'époque. Donc effectivement, à cette époque-là, on insiste sur la proximité avec les Italiens, mais ça s'explique aussi par des raisons socio-économiques du moment.
Il y a même des comités latins qui sont mis en place, qui visent justement à rendre à cette immigration toute sa place et à la justifier.
Oui, oui, tout à fait. Il y a des sortes de lobbies qui œuvrent pour un rapprochement avec l'Italie. D'ailleurs, certains d'entre eux vireront un peu pro-fasciste à partir du moment où Mussolini sera au pouvoir. Mais eux aussi contribuent finalement à donner une assez bonne image des Italiens. Pour autant, les anciens stéréotypes anti-italiens traditionnels dans l'imaginaire français, les stéréotypes que Pierre Milza a bien décrits, par exemple, dans ses bouquins, qu'on retrouve dans toutes sortes de littérature de l'époque, sont quand même toujours effectif, c'est-à-dire qu'aux yeux des Français, les Italiens sont des guignols, des gens pas sérieux, ils ont un côté artiste, mais bon, c'est des musiciens paresseux, et puis on les dit aussi traîtres, peu assez lâches, peu familiers des choses de la guerre, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des stéréotypes qui restent en toile de fond, en quelque sorte. C'est pas eux qui émergent face à cette vague migratoire, mais ils sont là, présents, dans des moqueries, etc. Et ils ressurgiront le temps venu, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, l'imaginaire a sa temporalité propre, quoi. C'est un registre toujours disponible quand il y a des vagues xénophobes pour donner du grain à moudre, en quelque sorte, à la xénophobie.
Cette première partie de notre série d'émissions consacrée à l'histoire de l'immigration italienne dans le sud-ouest de la France s'achève. Je voudrais remercier particulièrement l'hortelière et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de notre série d'émissions.